l'épidémie s'étend, n'est-ce pas? Elle va proliférer à chaque nouveau lecteur et...
Il y a encore beaucoup de gens qui ne l'ont pas lu.
Il y a le film.
Je veux vous sortir de là.
Pas d'urgence. On est plus en sécurité ici. Et dehors, ça risque d'empirer. Chaque espèce ressent l'approche de son extinction. Le dernier qui restera ne rigolera sûrement pas. Dans 10 ans, peut-être moins, la race humaine ne sera plus qu'un conte pour amuser leurs enfants. Un mythe. Rien de plus.
Allez l'avertir! Allez lui dire que j'arrive! Dis que j'arrive, putain de merde!
Aïe, il y avait un truc qui tournait derrière. C'est la catastrophe. Bonsoir à tous. Bonsoir Laurent.
Bonsoir Fabrice.
Comment vas-tu?
C'est générique est magnifique, ça va? Ça va bien, écoute.
Ça va.
Il est magnifique, c'est extrait de L'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux?
Pas du tout.
Ah merde, j'ai cru reconnaître.
Non, pas du tout.
Depuis que j'arrive, c'est pas quand il parle au cheval?
Non, ça c'est l'anglais. L'anglais de Steven Soderbergh avec... avec... Non, il parlait... Il murmure pas comme ça, alors il est chaud. Et puis le reste,
c'est... Parce que on va parler...
De Robert Redford. Ah, d'abord on va quand même présenter l'émission, puisque vous êtes sur l'autre radio.
Mais oui, c'est vrai que c'est une nouvelle émission sur la grille de l'autre radio.
Oui, une petite émission qui... encore qu'il y a quelques années de cotisation derrière elle. Donc,
plus de 10 ans, je crois.
Plus de 10 ans. Donc nous sommes... vous écoutez le masque à la tronçonneuse sur l'autre radio, 107.9 à Château-Gontier et 101.7 à Laval. Après, c'est également écoutable dans le monde entier sur www.l'autreradio.fr. Et puis c'est une émission, pour ceux qui ne la connaissent pas, il doit y en rester 2 ou 3, où on parle de films qu'on aime, de films qu'on n'aime pas, de films qu'on aime détester et de films qu'on a un peu honte d'aimer. Voilà. Donc,
C'est carrément ça. Et donc, oui, et ce soir, nous allons parler d'un homme qui a murmuré à l'oreille des chevaux, mais pas que.
Qui a une carrière assez...
Qui est un monstre du cinéma.
Exactement, voilà.
Qui est un acteur qui a tellement fait partie, enfin qui fait tellement partie du paysage cinématographique qu'on a oublié qu'il était mortel.
C'est ça. Et c'est alors on peut dire que c'est, enfin on entend souvent que c'est le dernier de sa génération, mais c'est toujours le dernier de sa génération qui meurt. Quand sera Clint Eastwood, ce sera sans doute pareil. Mais ça marque une époque quand même. On a tous un petit peu de souvenirs de, au moins d'un film avec Robert Redford. Et je parle pas que
des plus jeunes.
Et je parle pas, justement les plus jeunes aussi. Et c'est un acteur qui pour moi est assez unique parce que il était très discret malgré l'aura qu'il avait. C'était quelqu'un d'assez discret en fait. Voilà.
Discret et d'engagé.
Et discret, d'engagé sur des sujets.
Complexe,
comme une partie de sa filmographie, avec des sujets pas toujours faciles dans ses films. Écologiste.
Écologiste, un mec de gauche.
Voilà, donc forcément un mec bien.
Et qui en plus, donc forcément un mec bien, ouais. Mec qui pourtant a été salué par Trump, parce qu'il pour un mec de gauche, c'est vraiment être un mec bien.
Oui, ou alors ceux qui ne voyaient pas trop comment il était obligé de faire un truc, quoi. Voilà. Ouais. Après, ce que j'ai entendu, moi, c'est que Trump l'a félicité comme, enfin, l'a célébré comme l'homme le plus beau jusqu'à sa mort, et que maintenant, en gros, c'était Trump qui prenait le relais. Enfin, ouais, c'est Trump, bah, faut pas. Voilà.
Oui, bien sûr.
Et voilà. Donc. Ouais, une filmo quand même assez conséquente sur 50 ans en fait. Hein.
Voilà. Et pour ceux qui ne l'avaient pas compris, on parle de Robert Redford.
Ah, je ne l'ai pas dit, d'accord.
Et nous, on ne l'a pas dit, mais c'est une telle évidence.
C'est une telle évidence, ouais. Ouais. Et
un acteur américain, moi que j'ai découvert, je suis plus très jeune, mais je suis beaucoup plus jeune que lui. J'ai découvert à travers un film qui a été une vraie claque, qui s'appelait Jeremiah Johnson.
D'accord. Moi,
Voilà.
c'était. Je sais plus quel film c'était. Ouais, je sais plus quel film
Et après,
c'était.
j'ai vu d'autres films,
Ouais.
y compris antérieurs, mais le premier film que j'ai vu de mémoire avec Robert Redford, c'était Jeremy Johnson, et ça a été une vraie barre.
Oui. Moi, ça devait être
C'est celle
l'arnaque. Je pense que c'était l'arnaque. Ouais. Ouais.
qui te décolle un peu les dents, quoi. Mais
Ouais.
L'arnaque, je l'ai vu bien plus tard. Bien plus tard, enfin bien plus tard, pas si tard que ça. Mais je l'ai vu, je pense, après Les Hommes du Président. L'arnaque est un pur chef-d'œuvre. À l'époque, c'était d'ailleurs un des grands twists cinématographiques, un des premiers grands twists cinématographiques après Hitchcock. Enfin, Hitchcock en avait fait un ou deux, mais l'arnaque était quand même sacrément bien montée.
Oui, et puis pour les. Enfin, les décors, enfin, le Chicago, le Chicago des années 30, enfin,
Années
c'est
30,
tout,
ouais.
tout
La
collé en fait,
musique,
la façon qu'il avait
qui
de
est.
porter sa casquette, enfin, c'était. Et tout le déroulement du film où, quand on le découvre la première fois, on sait pas trop. On se fait arnaquer en fait pendant.
Ah, mais clairement, L'Arnaque, c'est un film à deux niveaux, tu as tout à fait raison de le dire, c'est que c'est une arnaque et on arnaque le spectateur en
C'est
même
ça.
temps.
Donc
Et ça, c'est génial. Pour moi, c'est absolument génial.
l'arnaque, c'est un film de Roy, de George Roy Hill, hein, qui est sorti en 73. Et
Tout à fait.
c'était
The
la
Sting en anglais.
The Sting en anglais. Et c'était la comment une nouvelle fois où Paul Newman et Robert Redford partageaient l'affiche. Après
Eh oui.
comment Butch Cassidy et le Kid. Donc
Oui. On va en
en
reparler du
VO, Butch
Sting
Cassidy
d'ailleurs.
et The
Et
Sundance Kid,
Sundance
voilà ce
Kid. Il n'y
qui.
a pas de hasard.
Il n'y a pas de hasard. Voilà.
On en parlera tout à l'heure.
Et donc, il se déroule pendant la grande crise. Et deux complices arnaqueurs cherchent à monter une arnaque pour se venger de la mort d'un de leurs camarades. Voilà. Et c'est super cool. Voilà. J'ai regardé avec ma fille. Il n'y a pas longtemps, il était passé sur Arte. Merci Arte d'ailleurs, parce qu'il passe des films. Arte et puis France TV. Ils passent des films comme ça et on peut les voir sans pub, ça c'est bien. En replay, ça c'est bien aussi. Et donc faire découvrir ça à des. Moi j'étais pas né hein, quand il est sorti ce film-là, mais c'est un vrai bon film. D'ailleurs, Robert Redford n'a pas vraiment de.
73, j'étais né, mais j'avais un nom. Alors, mes parents n'ont pas vu, il paraît que j'avais pas l'âge.
Non, oui, c'est. Mais Robert Redford n'a pas vraiment de gros navets à sa filmographie. Enfin, j'en ai.
Alors, il a eu des plantages commerciaux, mais ce n'est pas des navets, il ne faut pas confondre.
C'est ça.
Tout à fait.
Quelques films, on va dire un peu oubliables. Moi, ce qui me vient à l'esprit dans ceux que j'ai découverts, récemment, c'est enfin récemment, quand j'étais ado, c'était Proposition indécente, qui est vraiment
Oui,
pas
c'est
extraordinaire.
oubliable.
Pourtant, sur le papier, tout allait bien. Comme c'est, il y avait un bon réalisateur, il y avait un super casting, dont Robert Redford, Demi Moore. Comment Woody Harrelson et Adrian Lyne à la réalisation, à qui on doit quand même L'échelle de Jacob, qui est quand même
Eh oui,
le film qui me
entre
fait,
autres.
entre autres, ouais, Liaison fatale, 9 semaines et demie. 9 semaines et demie, j'ai jamais trop compris l'intérêt, mais bon, voilà.
Bah, si, c'était oui, la première incursion cinématographique érotique ailleurs que dans les salles X, quoi.
Oui, c'est ça, on va dire ça, ouais.
Bon, il y en a eu d'autres, hein, par exemple Le Meilleur, qui est un film de Barry Levinson, qui parle de baseball. Moi, jamais été très très accro aux films de baseball. C'est des films qui s'adressent principalement à un public américain.
Oui, comme les films sur le
Enfin,
football américain, à part
c'est
l'enfer du
ça.
dimanche, qui est
Ah si, il y avait Le Fan, mais Le Fan se servait de ce décor.
ouais.
Bon, il y a eu d'autres films, hein, voilà, dans lesquels on va dire il est un petit peu moins engagé, quoi. Parlons des Avengers ou de Captain America, mais
Ouais,
bref.
encore que même les Avengers. Moi, les Avengers,
Bon après, respect, il incarne quand même. Il incarne quand même un agent d'Hydra infiltré au sein du
Ouais,
gouvernement américain, c'est pas mal.
c'est pas mal.
Fallait
C'est et puis
oser.
c'est non seulement c'est loin d'être le mauvais le plus mauvais des Marvel, on va dire, mais c'est même un très bon film. Moi, Le Soldat de l'hiver, moi, c'est un film que.
Ah oui, Le Soldat de l'hiver.
Que j'aime bien. Après, je sais qu'il a joué aussi dans Avenger, mais j'ai pas fait gaffe si c'était
dans Endgame, en fait.
Des reshoots ou s'il a vraiment joué dedans, en fait. Parce que...
Non, il a vraiment joué dedans, ouais. 2019.
D'accord, ça doit être un de ses.
Effectivement, il jouait dedans, ouais.
Ouais. Et ça doit être un de ses derniers films, d'ailleurs.
Je crois que c'est son dernier film, ouais. Tout à fait.
Donc. Ouais, c'est son dernier film, ouais. Ouais. Ouais.
Et Après, il a joué à la télévision. C'est sa dernière apparition à la télé, enfin, dans une série à la télévision. Et dans un épisode qui s'appelle Dark Queens, d'une série qui s'appelle Dark Queens, en fait, où il joue un joueur d'échecs. Voilà.
D'accord. Bah, il avait commencé, il avait joué aussi dans, au tout début de sa carrière dans la quatrième dimension. Il avait fait un petit rôle dans la quatrième dimension. Dans un épisode.
Oui, il a eu des petits rôles où il n'a pas été crédité, effectivement. Voilà. Il a joué dans Maverick aussi. Quatrième dimension, oui, en 62. Maverick en 60. Effectivement. Mais c'est un acteur que je retiens quand même pour des rôles très forts. Alors, ce qui est rigolo, on parlait tout à l'heure d'un truc rigolo pour l'arnaque, c'est que l'arnaque, au départ, c'était pas pour lui le rôle, c'était pour Jack Nicholson, qui a décliné. Et on peut remercier Jack Nicholson d'avoir décliné le rôle.
Oui.
Parce que il est excellent dans l'arnaque. Et on imagine difficilement un autre acteur que lui, en fait.
Dans l'arnaque, oui. Ouais, ouais. Ouais. Après, lui, il a aussi été boulé de quelques rôles. Je pense à Barry Lyndon. Barry Lyndon,
ouais, de Kubrick. Hein.
De Kubrick. Il a aussi été boulé du lauréat.
Alors, non, le lauréat, je ne crois pas qu'il ait été boulé. Il a été boulé parce qu'il me semblait qu'il l'a refusé, en fait.
Parce que j'ai lu en préparant l'émission, c'est que. Et je pense que c'est une très bonne chose qu'il ait été boulé. C'est que il n'aurait pas été crédible dans le rôle, en fait.
Alors moi, j'ai pas la même info que toi, mais peut-être que les deux se complètent. Pour moi, il a décliné l'offre parce que, en fait, suite à ses premiers rôles au cinéma, il a été rapidement repéré. Hein, d'ailleurs, dès l'un de ses premiers grands rôles, il obtient un Golden Globe. Mais en fait, il en avait marre qu'on lui propose que des rôles du long aux yeux bleus américain typique, quoi. Enfin, voilà, il avait marre de ce stéréotype-là. Donc moi, l'information que j'ai, c'est qu'il avait refusé le rôle.
D'accord. Et il a aussi été approché pour le rôle de Don Corleone dans Le Parrain.
Oui. Ouais. Bon, là, non.
Bah, pourquoi pas. Quand on voit ce que... Bah, après, oui, c'est pas... Tu vois, dans Barry Lyndon, moi, je pense qu'il aurait été très bien. Dans Barry Lyndon.
Dans le rôle de Don Corleone, c'est vrai que. Enfin, il. Comment. Je ne sais pas s'il aurait eu la carrure du personnage, comme peut l'avoir.
Marlon Brando.
J'ai mangé son nom. Merci, Marlon Brando.
Marlon Brando, ouais.
Qui a vraiment ce côté. En plus, bah, il est un peu con.
Surtout que Brando a construit le personnage avec. Il a vraiment donné sa patte. Je sais pas, Redford aurait fait quelque chose de très différent. Alors que dans Barry Lyndon, s'il avait joué dans Barry Lyndon, il aurait sans doute fait quelque chose d'assez proche de ce que Ryan O'Neill a fait. Mais ça aurait pu être intéressant. Déjà, moi c'est un film que j'aime beaucoup, Barry Lyndon, dans la filmo de Kubrick. Hein. Et Ryan O'Neill, je le trouve très très bien dans le film. Il n'y a pas de souci. Hein. Le film est très bien.
Sûr.
C'est juste d'imaginer comme on peut avoir des fois, tu sais... Qu'est-ce que ça aurait pu donner ce projet avec tel ou tel acteur, quoi.
Hein, ah, tout à fait, non, mais tu as raison. Après, moi, je l'imagine. Enfin, j'aime beaucoup Redford. Hein. C'est un acteur, encore une fois, pour qui j'ai beaucoup d'admiration. Et voilà. Il n'y a pas un film que j'ai vu avec lui où je me suis dit bof. Voilà. Comme tu dis, un peu le sentiment d'avoir vu que des bons films. Mais je n'aurais pas imaginé dans ce rôle-là. Enfin, toi, Alors peut-être que, comme tu dis, Brando a mis tellement sa patte qu'on ne peut plus voir quelqu'un d'autre. Hein. Mais après, il est capable quand même de choses extraordinaires. Si on prend Jeremy Johnson, il fait une composition d'acteurs. Ouais, j'adore ce film, je l'ai déjà dit, mais la composition d'acteurs à l'écran est folle. Il est capable de jouer, de jouer des personnages torturés. Il est capable de jouer des personnages quasiment seuls à l'écran. Hein. Il l'a fait en 2013.
Oui, avec le film de navigation.
Voilà, tout à fait. Et 2013, il était plus très jeune, hein, donc c'était.
Tout est perdu hein, en français, mais en traduction littérale.
Tout est perdu, mais
le titre, c'était All is Lost. Hein. D'ailleurs, il est
Tout est perdu, oui. Alors,
c'est un film que je n'ai pas vu. D'ailleurs, c'est ça qui est bien quand. Quand un monstre comme ça du cinéma disparaît, entre guillemets, c'est triste. Hein, mais,
c'est bien, ouais.
Il y a quand même un avantage. Bon, il a quand même 86 ans. Je souhaite aux personnes de 86 ans de vivre encore très longtemps, sauf certaines. Mais comment ça permet d'avoir de bons films à la télé. Malgré les plateformes, c'est pas forcément des films qui sont faciles à trouver. Et aussi de se replonger dans leur filmographie. Et celle de Redford, elle est quand même coton. Et donc, ouais, ce film-là, en préparant l'émission, j'en ai entendu parler. Donc, All is Lost, c'est le titre français et américain. C'est Seul en mer au Québec. C'est un film où il n'y a pas de dialogue du tout. Et Robert Redford est le seul acteur.
Oui, c'est ça, il est tout seul à l'écran, ouais.
Ouais.
Donc il relève des défis quand même. Enfin, c'est chouette. Moi, on parlait du lauréat, tu vois, c'est un truc qui était rigolo, c'est en préparant l'émission de voir que alors il a décliné ou il s'est fait bouler. On n'a pas les mêmes sources, donc peu importe, on va pas trancher. Mais me dire que c'est Dustin Hoffman qui obtient ce rôle-là et qui permet à Dustin Hoffman d'exploser à l'écran et de savoir qu'après il se retrouve sur les hommes du président. Moi, je trouve ça croustillant comme anecdote parce que. Bah en fait, Dustin Hoffman est un autre monstre du cinéma.
Oui.
C'est pour ça que quand on dit que Redford est le dernier de cette génération, je suis pas sûr.
Enfin, non, et puis
il y en a encore quelques-uns.
Faut pas. Le cinéma n'est pas mort. Il y en a encore quelques-uns. Il y en a d'autres qui viendront. Comme je disais tout à l'heure, moi je trouve que lui, ce qui l'intéresse, c'était mais Dustin Hoffman, c'est un peu ça aussi, c'est que en dehors de ses films. On sait globalement peu de choses de lui, on le voit pas partout, pas dans les soirées mondaines, pas sur les yachts en été, enfin tu vois ce que je veux dire. C'est assez bizarre, une distance et une proximité, parce que la distance bah c'est que on le voit pas beaucoup, mais la proximité c'est que globalement il vivait dans un ranch, enfin dans une ferme quoi.
Dans l'Utah d'ailleurs, là où il y a le Sundance Festival, hein, c'est ça. On en parlait tout à l'heure, enfin on a commencé à en parler, oui.
Et puis t'es colo, puis voilà, moi c'est des choses qui me parlent pas mal.
C'est pas vrai, t'as allumé tous les boutons.
De quoi?
Mais t'as allumé tous les boutons sur la console, j'ai entendu parler de ça.
Oui, oui. Ouais. Et puis voilà quoi, c'est.
Dites ça parce qu'en fait, il a une vie privée déjà qui est assez peu étalée. Et il a eu trois enfants, je crois, hein, dont un qui est mort.
Il est mort jeune, ouais. Ouais.
Très jeune, je crois qu'il est mort dans les premiers mois de sa vie. Un deuxième qui est décédé assez jeune aussi, hein, et une fille, donc. Et il a été longtemps avec son épouse, en fait. Ils sont restés plus de 30 ans, je crois, mariés. Enfin, c'est un des couples à la fois de l'amour et discret d'Hollywood, et il s'est remarié il y a quoi, il y a 10 ans, 15 ans ?
Il y a une quinzaine d'années,
donc,
ouais.
C'est ça.
Ouais.
Donc, oui, c'est pas quelqu'un dont on a envie de parler. Par contre, c'est un quelqu'un qui était aussi, enfin, à l'écran, qui avait ce côté très glamour, qui était un séducteur, en fait, à l'écran, mais qu'il était aussi... avec ses partenaires, je crois que c'est Jane Fonda qui avait dit que c'était l'acteur avec qui elle avait tourné qui embrassait le mieux. Donc c'est marrant. Et il a. Et
Non, et puis moi, pareil, en préparant l'émission, donc en écoutant et en lisant des trucs, Robert Redford, dans les années 80, est devenu quand même beaucoup plus rare au cinéma, sans être complètement disparu. Et en fait, il expliquait que il estimait arriver à un point où, quand les gens le voyaient à l'écran, ils voyaient Robert Redford qui jouait tel ou tel rôle, ils ne voyaient plus le personnage, en fait.
Ouais, oui, alors bien sûr, bah ça fait ça avec beaucoup d'autres, hein. Dustin Hoffman, quand tu vois l'écran, on voit Dustin Hoffman, et voilà, mais et puis même, enfin, même quand moi je regarde des films de Sergio Leone, je vois Clint Eastwood jouer un personnage de Clint Eastwood. Enfin, voilà, c'est Clint Eastwood que je regarde,
Oui,
pas
tout à fait.
un blondin.
Mais ça, pour
Mais ça
certains cas,
n'empêche pas.
ça t'empêche de rentrer dans le film. Pour d'autres cas, c'est pas grave, en fait.
Alors voilà, c'est ce que j'allais dire. Pour le coup, par contre, ça crée pas de suspension d'incrédulité.
C'est ça.
Donc voilà, c'est là où moi je trouve que c'est intéressant. C'est là où on voit les monstres sacrés du cinéma, c'est que quand ils sont à l'écran, on les voit eux et on les incarne comme ça. Toi, encore une fois, Clint Eastwood dans un Sergio Leone, je vois pas longtemps. On regarde un Clint Eastwood.
Oui,
D'ailleurs, c'est ce qu'on
oui.
dit. On regarde pas un Sergio Leone, en fait, on regarde un Clint Eastwood. Enfin, c'est un truc de fou. Ça crée pas effectivement, cette suspension d'incrédulité, ça ne fait pas tomber le quatrième mur, etc. C'est-à-dire qu'ils deviennent tellement des monstres sacrés du cinéma que, quel que soit le film dans lequel ils sont, bah, le personnage, c'est Clint Eastwood. Ou alors, c'est Robert Redford. Ou
Oui.
c'est Dustin Hoffman. Voilà. Quand on regarde Rain Man, est-ce que tu es capable de me donner le nom du personnage que joue Dustin Hoffman dans Rain Man? Personnellement, je ne le suis pas.
Je sais,
Par contre,
c'est Raymond
c'est
Babitte.
Dustin Hoffman. Ah oui, c'est
Parce
ça.
que c'est
Raymond Babitte. T'as raison.
Charlie
Ouais, bien
Babitte.
joué.
Charlie Babitte.
C'est ça. Ouais.
Ouais.
Bien joué. C'est bon, tu m'as coincé. Mais
Non,
alors,
non,
tu vois,
après, Redman, et
tu
puis
vois.
Dustin Hoffman a eu une petite partie de sa carrière, enfin une partie de sa carrière où il a fait justement ce que tu disais, c'est-à-dire que c'était un monstre sacré, mais il faisait du Dustin Hoffman. Voilà. La période un peu après, on va dire après, comment Redman, avec enfin un peu après, il y a quand même pas mal de films après, mais toute la série, c'est pas toute la série, mais il y a eu Mon beau-père, mes parents et moi, un truc comme ça, où il jouait avec Ben Stiller. Il était là pour cabotiner en tant que comment Dustin Hoffman. Pareil
Oui,
dans le
enfin.
film Alerte, c'est enfin il court partout, enfin c'est voilà, mais en même temps c'est un film que j'aime bien, sans être un chef-d'œuvre, c'est un film que j'aime bien, Alerte, hein, voilà.
Ouais, puis je crois qu'à un moment donné, ce genre d'acteur n'a pas vraiment de compte à rendre. C'est-à-dire s'ils font ces films-là, peut-être qu'ils ont plaisir à les faire aussi, tu vois. Enfin, ils n'ont rien à prouver, finalement. Enfin,
Non, non, c'est ça, ils n'ont rien à prouver. Et quand tu essaies de trouver un équivalent de Robert Redford en France, c'est assez compliqué à trouver parce que tu peux retomber sur les
Oh,
monstres
Christian
sacrés.
Clavier, non?
Hein? De quoi?
Christian Clavier, non?
Oh non, là, Christian Clavier, non,
Non, je
surtout
sais
pas.
pas. Non, 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 je déconne, je déconne. Je n'ai jamais dit cette phrase.
Je fais une petite parenthèse, mais j'ai eu la. Ils ont ressorti au cinéma pour une séance, pour une journée. Papy fait de la résistance. Et
Ah ouais.
c'était dimanche dernier, et j'ai pu le voir grâce au Palace de Château-Gontier. Et il y a Christian Clavier dedans, qui est en plus au scénario. Et puis
Oui.
franchement, moi, par rapport, c'est pas vraiment la troupe du Splendide, mais je pense que, enfin, de mon point de vue, c'est le meilleur film qu'ils aient fait, en fait.
Bon, il y a quand même pas mal de personnes. Enfin, ils sont un certain nombre de splendides quand
Ils sont un certain nombre de Splendides,
même.
ouais.
Oui.
Soit ils ont
Enfin,
des rôles
Julio, il est
construits, soit ils font
extraordinaire dans ce film.
une petite
Un
apparition.
petit caméo, ouais.
Mais je trouve que vraiment le film est très bon. Alors que
Ah oui, je suis
j'ai
d'accord avec toi.
j'ai honnêtement le j'ai toujours eu un peu de mal avec Le Père Noël est une ordure, et puis Les Bronzés, le 2 me tordre de rire. Le premier, un peu moins quand même. Enfin bref, même s'il y a des bons moments, ben voilà. Mais le papy fait de la résistance, je me marre du début jusqu'à la fin.
Après, ouais, mais c'est un film qui va parler à peu de gens pour plein de raisons. Parce que, par exemple, le final de Papy Ferré l'instant, c'est les dossiers d'écran. Et qui se rappelle les dossiers d'écran, quoi.
Oui, après, dans la salle, honnêtement, vu le public, tout le monde s'en rappelait. Mais
Délicieux.
on n'était pas très jeunes. Mais comment. Donc il y a Christian Clavier qui est au scénario. Le scénario est très
Oui,
bien
tout à fait,
avec
oui.
Martin Lamotte. Hein. Le film est bien parce que c'est une vraie comédie, mais c'est fait sérieusement avec une ribambelle de costumes, des véhicules et tout et tout. Mais Christian Clavier, il court déjà comme il court toujours, en fait. Il a toujours. Enfin, bref, voilà. On sent déjà le jacouille la fripouille, quoi.
Ouais, non, mais j'ai jamais dit, c'était pour rire, hein, quand j'ai dit Christian Clavier. Non, non, il y en a des monstres sacrés du cinéma. français, il y en a assez peu.
Bah, en masculin, il y a comment en homme, il y a Depardieu, enfin pas Depardieu, Depardieu.
Pardon. Alors je ne cautionne pas. Ces sorties-là qui sont anti-féministes.
Non, lui c'est un monstre tout court.
Voilà, ouais, je crois. Ouais.
Et il y a Belmondo et Delon. Encore que Delon, il avait des petits côtés Depardieu quand même. Mais bon, sauf que ce que Robert Redford n'a pas fait... Voilà,
Belmondo ou un mec comme Bourville aussi.
Ouais, ou un mec comme Bourville, ouais. Mais Redford n'a pas fait que Belmondo et Delon ont fait, c'est qu'à partir d'un certain moment de leur carrière, ils se sont enfermés dans des rôles où, globalement, même si les films sont pas mauvais, on les retrouve toujours dans à peu près les mêmes rôles, quoi. Le justicier, ouais, le policier, voilà.
Ouais, mais je pense aussi qu'il y a quelque chose de l'engagement. C'est-à-dire, bon, de long, l'engagement d'extrême droite, il était connu depuis longtemps, mais c'est pas le même engagement. On parlait de sa discrétion à Redford. Il s'est engagé pour le cinéma indépendant. On parlait du titre Butch Cassidy and the Sundance Kid, mais il fonde le Sundance Festival en 85.
Oui.
Alors sur la base d'un festival déjà existant, mais qui était un festival de court-métrage, en fait.
Oui.
Et il est venu après, il a monté effectivement l'association 81 à but non lucratif, appelé Sundance Institute. Et 85, il lance le Sundance Festival. Et il a quand même, enfin, ce mec-là, il a su rester dans l'ombre. Et il a repéré des réalisateurs majeurs. Il a repéré Tarantino, il a repéré... Darren Aronofsky,
Jim Jarmusch,
il a sorti des gens, oui. Ouais, ben, voilà, ces personnes-là lui doivent leur visibilité. Alors peut-être qu'ils auraient explosé à d'autres moments, mais franchement, quoi.
Bah, il a permis.
Et il continue à permettre. Hein.
Ouais, il a permis entre guillemets, il a participé au fait qu'un cinéma différent puisse exister, quoi. Enfin différent, exactement. Indépendant. Ouais, voilà.
Indépendant de, effectivement, oui, indépendant de d'Hollywood. C'est un festival qui en marge d'Hollywood dans les années 80, fallait oser, quoi.
Oui.
Et ça, il l'a porté et c'est chouette. On a eu de très très bons films. Enfin, je te disais en off que vendredi, je vais voir, parce qu'il y a deux jours de séance seulement prévus pour ce film, qui est Good Boy.
Oui.
C'est un film d'horreur, hein, mais dont le personnage principal est un chien, et tout est vu à travers les yeux du chien. Ce qui, pour moi, est intéressant. Ce film a été présenté au Sundance. Enfin, voilà, c'est... quand tu as je peux pas dire ce label, en fait. Un film, moi, quand il a été présenté au Sundance et qu'il a été remarqué au Sundance, pour moi, c'est un gage, en fait, de crédibilité. C'est un gage de curiosité. Je dis pas que je reste bloqué là-dessus. Hein. Il y a d'autres films que j'ai découverts qui n'étaient pas présentés dans aucun festival. Mais quand même, quand ça vient pointer son nez au Sundance Festival, voilà. Et puis, on parle du film, hein, mais il y a aussi des documentaires. Il y a énormément de choses, en fait.
Oui. Ouais, Oui, il a été aussi réalisateur de quelques films.
Il a été réalisateur de quelques films.
Ouais. Et il fait partie du club assez restreint des réalisateurs oscarisés.
Oui, alors on n'a pas encore parlé de ses nombreuses récompenses, mais... Ouais, quelques-unes.
Et il n'a pas eu d'Oscar du meilleur acteur. Ça a été.
Mais il a eu un César.
Il a eu un César. Ouais. D'ailleurs, c'était drôle. Et la cérémonie était pas mal. C'est le meilleur moment des Césars, en fait, quand ils remettent un César d'honneur à un acteur américain ou une actrice américaine pour avoir un peu d'audience.
Bon, on va pas retirer, on va pas bouder notre plaisir. Moi, ça me fait plaisir qu'il y ait un César.
Ah oui, il a eu la Légion d'honneur et tout. Moi, c'est pas un souci non plus. Hein. Même.
Pourtant, la Légion d'honneur.
Bah, ça remonte le niveau.
C'est ça, oui. Ouais.
Ah non, il est réalisateur oscarisé avec Warren Beatty, Clint Eastwood, Mel Gibson, Richard Attenborough, dans un film, aussi un film où il a joué. Ça, c'est un film que j'adore, Kevin Costner. Et donc, ouais, il fait partie de ces six-là. Ouais.
Ils sont pas nombreux. Hein. aussi.
Ils sont pas très nombreux, ouais. Ouais, il a joué dans un film de Richard Attenborough que j'adore, c'est Un pont trop loin. C'est un film de guerre extra. Je sais pas si tu.
Ouais, bien sûr, oui, mais oui, Un pont trop loin, bien sûr, je l'ai vu.
C'est. J'ai pris une claque parce que je l'avais vu assez petit, j'étais assez jeune. Et comment. Déjà, il y a un casting. Il y a un casting à tomber par terre, franchement, c'est. Il y a James Caan, Michael Caine, Sean Connery qui est monstrueux dans ce film, dans le rôle du général Urquhart. Et donc c'est l'histoire de la bataille comment c'était, Market Garden, hein, où il devait parachuter plein d'hommes sur une série de ponts, et il devait être rejoint par les blindés et l'infanterie très rapidement, et ça s'est très mal terminé.
Ça dure quelques jours.
Ça dure quelques jours et ça se termine mal. Et en fait, moi, c'était c'est le premier film que j'ai vu de guerre que j'ai vu quand j'étais enfant, où en fait les alliés perdent, en fait. Voilà. Les gentils, on va dire les gentils, puisqu'en face ce sont des nazis. Il faut rappeler que les nazis, c'est quand même les méchants, hein.
Voilà. N'oublions pas.
N'oublions pas, vu qu'en ce moment c'est un peu trouble.
Ah, c'est toujours de la faute des nazis, il y en a marre.
Il y en a marre, ouais. Les nazis c'est l'extrême droite, le Front National c'est l'extrême droite, les nazis c'est les méchants, ok.
Voilà.
Voilà. Et il y a Anthony Hopkins aussi dans ce film qui était.
Ouais, on n'a jamais essayé. Non, je déconne.
Ouais, bah, on n'a jamais essayé, il suffit de prendre un livre d'histoire qui commence avant 1900, on va dire 1933. Et puis ça, voilà. ça devrait le faire. Ouais, ce film-là était extraordinaire parce que je me rappelle d'un plan qui m'avait vraiment scotché quand j'étais gamin. C'était le plan de décollage des. Alors, je crois que c'est des DC-3. Je vais pas faire mon spécialiste en aéronautique, avec tous les parachutistes dedans. Et c'est avant les effets spéciaux en images de synthèse, qui est très bien. Il y a pas de souci pour ce genre de choses. Mais de se dire que chaque avion qu'on voit à l'écran existe en fait et a volé, ils ont volé ensemble, hein, voilà. Après il y a sans doute un trucage qui fait que ça les rend plus nombreux qu'ils ne sont vraiment, mais c'est vraiment impressionnant, la piste de décollage avec tous les avions qui sont alignés, voilà. Plus tout le reste, la fin de la galère du personnage joué par Anthony Hopkins, voilà, ce film là moi c'est un film vraiment que j'adore beaucoup.
Petite anecdote du film, quand même, il y a eu un conflit entre Sean Connery et Robert Redford.
Ah, ça je savais pas.
Parce qu'en fait, Redford a. Enfin, on va le dire inversement, en fait, Sean Connery en fait, a accepté de tourner le film pour 250 000 dollars.
Ah oui, je me rappelle de ça, si, ouais.
Voilà. Et en fait, il a appris que Redford a touché 1 million. Et donc, il y a eu des offres connues. Enfin, il y a eu des. Ça rappelle ces espèces de guerres du premier nom sur l'affiche ou.
Pardon. Ah, moi, dans cette anecdote-là, moi, le top, c'était l'affiche de Borsalino, qui n'est pas un film extraordinaire, avec Belmondo et Delon.
Et Delon, ouais.
Voilà, et les deux avaient. Enfin, c'était vraiment. La négociation de l'affiche était quel nom apparaîtrait sur la gauche, quel nom apparaîtrait sur la droite. Ils se sont mis d'accord pour avoir exactement la même taille de police d'écriture. Voilà. Tout, Sauf que Delon, ce gros malin, il était aussi producteur, donc il avait son nom deux fois sur l'affiche. Mais ouais, j'avais entendu cette histoire, mais Sean Connery était coutumier de ça. C'était un bon acteur, mais il savait bien compter aussi. Voilà.
Ouais, bah écoute.
Mais normal, hein.
Et c'est un film où il y aurait pu y avoir aussi Roger Moore, mais qui était engagé, je crois, sur un James Bond.
Oui.
Et De Niro aussi, qui a refusé le rôle pour un salaire 5 fois inférieur. Pour Taxi Driver. Mais il a bien fait.
Il a bien fait, ouais. Parce qu'il y avait déjà assez de stars dans Un pont trop loin.
Ah ouais, non, mais c'est incroyable. Et
Robert Redford, il joue le rôle d'un major, et puis là, il fait une traversée d'une rivière en bateau pneumatique. Enfin, c'est. Il y a plein de bons moments de cinéma dans ce film. C'est vraiment. Mais de toute façon, le casting avec Elliot Gould, Gene Hackman qui joue le général de brigade polonais. Enfin,
Laurence Olivier, enfin, il y a Ryan O'Neill, on en parlait tout à l'heure.
Ouais, c'est vraiment un
Michael Caine, c'est incroyable, c'est un foutu film.
C'est un vrai bon film.
Je suis d'accord avec toi. Ouais, c'est un vrai bon film. Bah, c'est un vrai bon film de guerre, il n'y en a pas beaucoup. Enfin, moi, je ne suis pas très très. C'est pas un genre que j'aime beaucoup, les films de guerre, je trouve ça toujours un peu la même chose, quoique comment il s'appelle, Nolan a pu me réconcilier un petit peu, et puis après il y a eu 1917 aussi que j'ai beaucoup aimé, Mais c'est pas... C'est pas bon, il y a eu Fury aussi.
Ah oui, bah, tu vois, tu commences à en avoir. Et puis Solarian.
Ouais,
c'est dit,
oui. Ouais, d'accord. Bon, et puis La Grande Évasion. Mais La Grande Évasion est presque une comédie. Donc,
Moi, c'est un des traumatismes de jeunesse, mais bon.
Ouais, c'est bon, même si la fin est un peu dramatique, il y a quand même une certaine légèreté dans ce film.
Il y a une certaine légèreté, mais quand le camarade de Steve McQueen, Yves, l'Écossais, je crois que c'est un Écossais aussi ou un Irlandais, qui pète un câble et qui se précipite sur les barbelés et qu'il est flingué par les nazis. Moi, ça m'a... Les nazis, ouais. C'est les méchants.
Mais dans le film, on le voit bien. Hein.
Ouais, c'est des méchants.
Tous ceux qui ont réussi à s'échapper, il y a quelques-uns qui sont dessoudés aussi par la Gestapo.
Ouais, et puis ils sont bien habillés, mais c'est pas parce qu'ils sont bien habillés qu'ils sont gentils. Hein. Sont les plus beaux salopards, ils sont bien habillés. Hein. Ouais.
C'est pas parce qu'ils sont beaux et parce qu'on trouve qu'ils sont beaux, on vote pour eux. On peut pas faire ça avec les nazis. Ils sont beaux dehors, mais ils sont pas beaux dedans.
Non, c'est caca.
Ah, c'est moche, faut pas toucher.
Donc voilà, moi c'est un film avec Robert Redford que j'ai bien aimé. Voilà.
On en parlera, d'autres films, mais peut-être as-tu une petite pause musicale à nous offrir.
Ah oui, je peux passer un petit titre. Je vais pas le dire parce que c'est en anglais. Voilà. C'est parti.
Eh ben, tu vas le dire après.
C'est parti pour 3 minutes 30.
Right now.
Et voilà, c'était... Vas-y, je te laisse, Laurent.
The Neighborhood, Softcore.
Exactement, j'aurais pas dit mieux.
et donc,
on est toujours sur Le Masque à la tronçonneuse. On parle d'un acteur qu'on aimait bien, Robert Redford, et qu'on va toujours aimer.
C'est pas parce qu'il est mort qu'on l'aime plus.
Non, et puis, vu la filmo qui nous laisse, il y en a pour un moment avant d'avoir fait le tour.
Voilà. C'est clair. Alors, tu parlais d'un contre-roi. Moi, il y a un autre film aussi que j'avais beaucoup aimé. Alors, je l'ai dit, Les Hommes du Président. Et peut-être il y aura Les Hommes du Président numéro 2 bientôt. Hein. Qui sait
Mais dans quelques années.
Il y aurait matière.
C'est pas sûr qu'il lâche la rampe tout de suite. Qui rendent les clés tout de suite.
Il va peut-être être aidé à un moment donné quand même, ce monsieur.
Oui.
Mais un autre film aussi, moi, que j'ai beaucoup aimé, que j'ai découvert aussi un peu sur le tard, hein, forcément. Un film de Sidney Pollack, qui est un réalisateur que j'aime beaucoup, c'est Les Trois Jours du Condor.
Oui.
Qui était un film d'espionnage, en fait, qui est un thriller.
Ouais, et puis il a énormément tourné avec Sidney Pollack.
Ouais, alors ils ont eu beaucoup de... C'est vrai, ils ont eu beaucoup de... Je crois qu'ils ont fait 6 ou 7 films ensemble.
Ouais, je crois que c'est ça à peu près, ouais.
Un film de Les Trois Jours du Condor, où Robert Redford partage aussi l'affiche avec deux autres grands acteurs, hein, Faye Dunaway et Max von Sydow, notamment. C'est un film d'espionnage, donc.
Oui, et ça, c'est un film que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça. Je l'avais vu par bribes avant, mais en entier... ça fait pas si longtemps que ça doit faire 3-4 ans. Et d'ailleurs, merci Arte. Je sais pas si je l'ai dit tout à l'heure.
si, tu l'as dit, mais t'as dit merci Arte. Ouais.
Ouais, bah voilà. Donc pareil avec Arte. Et j'avais été surpris par la violence du film pour un film de cette époque-là. Parce qu'il est très dur en fait.
Ah oui.
Il est très très dur. Et
c'est un film qui, en plus, sur sa thématique, n'est pas. Ça reste assez d'actualité finalement. Enfin, c'est un cryptographe. Le mec, il est payé pour déceler avec son équipe des messages codés, des choses comme ça, des fuites d'informations. Enfin, il travaille pour la CIA. Et il cherche en fait des fuites dans les différentes agences de renseignement. Et un jour, il va trouver tous ses collègues assassinés.
Oui, il aurait dû être assassiné aussi parce qu'il est parti chercher un café de mémoire, un truc comme ça.
Tout à fait, ouais. Et il va prendre le pseudonyme de Condor et il va se lancer dans une course contre la montre. En fait, dans le but, ça va être effectivement de mettre à jour le réseau infiltré au sein même de son agence qui est à l'origine de cette tuerie. Et c'est l'époque où ce genre de personnage un peu anti-héros, voilà. Je fais un parallèle, mais c'est juste un parallèle, mais il y a une série que j'aime beaucoup actuellement, qui est une série Apple, qui s'appelle Slow Horses, et qui me fait un peu penser au film Les Trois Jours du Condor. Alors ça n'a rien à voir, hein, c'est pas du tout le même auteur à la base, c'est un écrivain, c'est Mike Aaron. La thématique, en fait, d'une agence dans laquelle il y a des infiltrations, on fout à terre des agents compétents, c'est un peu ça. Donc c'est l'occasion un jour de voir cette série avec Gary Oldman, je te la conseille.
C'est très bien,
Très très bien.
Ouais. Ce que j'aime bien aussi dans les films de cette période-là... On va dire globalement les années 70, mais aussi on a ça dans Les Trois Jours du Condor et ainsi de suite, c'est qu'on peut revoir les États-Unis de cette époque-là, puisque c'est des films souvent qui sont qui se veulent réalistes.
Ouais, qui sont datés, ouais.
Ils sont datés, ils se veulent réalistes. Hein. Et donc on peut revoir notamment dans Les Trois Jours du Condor, le World Trade Center, par exemple. Voilà. Il y a quelques scènes qui se passent au niveau du World Trade Center. Il y a des petites choses comme ça. Mais le World Trade Center aussi, on peut le voir dans un shérif à New York. Il est en construction.
Peut-être.
Voilà. Oui. On le voit en construction sur le générique de début. Et moi, j'aime bien tout ça. En plus du fait que le film, il soit vraiment... Il n'y a pas de chichi, en fait. Il n'y a pas d'ellipse...
Il n'y a pas d'ellipse, ça va droit au but, c'est
ça.
C'est rythmé. Enfin, Bon, c'est Lucide Despolac, hein. En même temps, moi, j'aime beaucoup son cinéma, mais non, non, si vous n'avez pas vu ce film-là, c'est un film, ça fait partie, bah, comme Un pont trop loin, comme Les hommes du présent, c'est des films qu'il faut avoir vu une fois dans sa vie, quoi. Enfin, si on aime le cinéma, on regarde ces films-là sans chichi. Enfin,
ouais,
c'est quand même une période où on avait... On n'avait pas encore la mode des blockbusters et des films un peu avec un scénario qui tient sur un piquet de métro, quoi. Donc,
Oui, ce qui peut être bien aussi. C'est vrai que c'est arrivé, on va dire, à peu près à cette époque-là, puisque c'était les Dents de la Mer qui a commencé le truc.
Oui, 77.
Les Dents de la Mer, c'est 75 même. Ouais, 50 ans,
75,
cette année.
75, t'as raison,
pardon. Donc c'est cette époque-là aussi où le blockbuster arrive. Mais moi, c'est surtout l'époque où... alors là, ça va faire vraiment vieux con, mais c'est... loin des films de plateforme en fait, où c'est la course la course à l'échalote et comment dire, maintenant on nous présente sur une même plateforme, on va nous présenter 10 gros un gros film par mois pendant l'année complète, et toute l'année complète il y aura peut-être un ou deux sur les 12 qui seront corrects. Après il y a toujours des petites pépites qu'il faut aller fouiller et trouver, quoi, mais
il y en a sur les films de plateforme, mais il n'y en a pas beaucoup.
Il n'y en a pas beaucoup. Après, il y a du très bon.
Mais dans le format blockbuster, tu cites Les Dents de la Mer, il y a quand même un scénar qui est écrit. Et en fait, le problème du blockbuster, c'est que plus on avance dans les années, depuis 75, donc tu as raison, plus la taille du post-it sur lequel est écrit le scénario diminue quand même.
C'est vrai.
On va pas se mentir. Des blockbusters avec un scénario super bien écrit, etc. Enfin, on en voit peu, voire plus trop.
Bah, t'as
des acteurs bankable avec beaucoup d'explosions, beaucoup de CGI. Et voilà, quoi. Ou c'est des grosses voitures, ou c'est des gros massacres, ou c'est des gros. Enfin, tout est gros, mais
oui, et puis c'est beaucoup d'images de synthèse. Donc en fait. C'est pareil, je suis pas réfractaire aux images de synthèse, mais c'est surtout qu'on se dit, avant on se demandait comment ils avaient fait pour faire le tel ou tel effet spéciaux, telle ou telle reconstitution. Maintenant on s'en fout, on se dit ils ont foutu un écran vert, ils ont mis des mecs en pyjama.
Oui, maintenant ils ont un nouveau système avec des écrans LED.
Et ce qui est pas forcément le cas en plus, des fois c'est il y a de la créativité quand même, mais sauf que quand on revient aux avions de Un pont trop loin. Maintenant, ils en mettent deux fois plus. Mais on s'en fout, en fait, qu'il y en ait deux fois plus.
Oui, alors j'ai revu un petit péché mignon il n'y a pas très longtemps. Là, c'est Kong, Skull Island.
Oui.
Et à un moment donné, je regarde l'écran. Il y a quand même beaucoup d'hélicoptères en 1973 dans le ciel pour juste survoler une île sans savoir trop ce qu'ils y foutent.
Oui.
Il y avait beaucoup trop d'hélicoptères. Ouais. On voit bien que ça nourrit le scénario et que derrière, c'est Monstre Kong qui se fracasse les hélicoptères comme il fracasse des mouches. Mais quand même, il y a une petite suspension d'incrédulité qui se passe là. Enfin, c'est pas la seule du film, mais on se dit, ah, quand même, ils ont lâché autant d'hélicoptères en 1973 pour s'envoyer une île. Ouais.
Et moi,
je suis d'accord avec toi.
Ouais, et bah, pour revenir à Robert Redford, il y a un autre truc que je trouve vachement bien. Par rapport au film de Robert Redford, c'est qu'il a eu de très bons doubleurs en fait, hein, en français, ce qui fait que c'est très bien en VO, c'est très bien en VF aussi. Je pense notamment à Claude Giraud, qui a fait sa voix pour Un pont trop loin, Les hommes du président et Out of Africa. Même en fait, on va faire sur sa carrière la plus récente, L'homme qui murmurait aux oreilles des chevaux, Spayem, tout ça. Et pour ceux qui ne situent pas, c'est la. Je vais donner une référence que. C'est notamment la voix d'Ulysse 31. C'est une voix magnifique, en fait. C'était une voix magnifique, Claude Giraud. Il a eu d'autres doubleurs comme Marc de Jorgui pour Butch Cassidy, Les Trois Jours du Condor, et ainsi de suite. Voilà. Paul Béthune aussi. Enfin, il a eu vraiment de très bons doubleurs.
Voilà. Ouais, donc c'est vrai. Ouais.
Et pour parler d'un autre film, puisque il nous reste encore quelques minutes, il y a un autre film qui est pas souvent nommé. Que moi j'aime bien avec Robert Redford, c'est Peter Elliott, Peter Elliott le dragon.
Ouais.
C'est un film fantastique, c'est un Disney. Je sais même pas s'il est sorti en France au cinéma, je suis pas sûr. Ça doit être un direct ou vidéo. Si, si, il est sorti au cinéma.
Si, il est sorti au cinéma, bien sûr. Hein.
Il est sorti au cinéma et c'est un film américain qui a été réalisé par David Lowery. Alors je sais pas ce qu'il a fait lui comme film. Pas trop de trucs que je connais. Mais c'est un film que j'ai découvert avec ma fille sur une plateforme.
Ah si, pardon. Alors je t'arrête. Je triche un peu, je viens de regarder mes sources, mais si, il a fait un excellent film, c'est The Green Knight. Alors, si tu n'as pas vu ce film-là, il faut le voir.
Bon, bah, je me le mets sur ma liste.
Le Chevalier Vert. C'est un film médiéval fantastique, en fait. Et juste un petit aparté. Que je te pitch et que je vous pitch le film d'ailleurs, ça va être l'occasion pour vous de voir peut-être. C'est le neveu du roi Arthur, donc qui est Pierre Gauvin, qui est paresseux, un peu sûr de lui. Et un jour, il accepte un défi lancé par un mystérieux chevalier vert. C'est-à-dire que le chevalier vert arrive et il le défie en combat, et c'est un combat trop facile, quoi. Et comme il est un peu feignant, Gauvin, bah facile, il gagne le combat en quelques minutes. Le Chevalier Vert, c'est un espèce de, ça, il s'appelle le Chevalier Vert parce que c'est un chevalier fait un peu de végétal, et quand Gauvin le décapite, il va prendre sa tête, en fait, il va partir avec sa tête, en lui disant qu'ils devront se retrouver dans un an pour que Gauvin subisse exactement le même sort en retour. Et ça, c'est intéressant. Et donc, ça va être une quête, en fait. Et c'est un très chouette film. Très bien filmé. Bon, et Peter Elliott le Dragon.
Peter Elliott le Dragon,
c'est intérieur, mais.
Il est... Ouais, et c'est.
C'est un film avec Dave Patel. C'est un acteur, j'aime bien.
Oui, je viens de voir ça, ouais. Dave Patel qui était dans Slumdog Millionaire. Voilà. Et qui aussi dans un film, là c'est un film de baston que j'ai vu, alors j'ai oublié le titre, mais qui est sorti très très récemment, Monkey Man, franchement.
Oui, c'est ça, Monkey Man.
C'est du John Wick, mais presque sans flingue, quoi. Donc c'est assez rigolo, voilà. Et puis il le fait bien, franchement il le fait bien. Voilà. Donc revenons à Peter Elliott. Peter Elliott, c'est un remake d'un film de Disney, alors je sais plus de quelle année, de 1977, que personnellement, le film d'origine, j'avais pas trouvé ça terrible. C'était un mélange, un peu comme Roger Rabbit, d'image en prise de vue réelle et d'animation rajoutée après. Là, c'est pas du tout le cas. C'est le dragon est en image de synthèse, c'est très bien fait. Il y a un casting d'enfer. Il y a Karl Urban, donc Robert Redford. Il y a Bryce Dallas Howard. Enfin, il y a vraiment, vraiment beaucoup de bons acteurs. Le film est très bien. Les paysages sont magnifiques. C'est assez bien réalisé. Et c'est un vrai bon film familial, en fait. Voilà, c'est. Et je pense qu'il a pas mal plu, parce que les avis qu'on trouve sur les différentes plateformes, que ce soit IMDb ou Letterboxd, hein, ils sont très positifs. Hein. C'est sûr que c'est pas un film glorieux dans sa filmographie, parce que déjà il tient pas le rôle principal, c'est un rôle secondaire, mais c'est quand même un rôle très important. Voilà.
Ouais. C'est un rôle très important. C'est un acteur qui arrive à s'effacer, qui n'exige pas forcément le haut de l'affiche. Bon, par contre, je suis un peu plus mitigé que toi sur le film lui-même, que j'ai vu aussi. Oui, c'est un film familial, je suis d'accord avec toi, mais c'est, moi ça m'a pas remporté, pas trop là.
Ah, moi j'avais, il y avait le côté de...
Sympa, mais bon, c'est oubliable.
Il y avait le côté, de voir ma fille être vraiment absorbée par le film, quoi, voilà.
Et oui,
c'est plutôt sympa.
T'as raison, hein, ouais. Moi j'ai emmené ma fille, quand ma fille allait au cinéma... J'y allais autant pour elle que pour moi de la regarder découvrir un film. Tu vois, c'est... Ouais, du coup, ça ne sera pas objectif.
Mais c'est pas grave.
Spéciale dédicace.
C'est pas grave.
Enfin, des films assez récents qu'il a pu faire. Assez récents, tout est relatif, mais j'avais beaucoup aimé aussi, on parlait du Dernier Jour du Condor, mais Spy Game.
Ah, Spy Game était sympa aussi, ouais. Ouais. Et Spy Game, en plus, c'était... C'était un petit peu, on va dire, le passage de relais. Enfin, en tout cas, à l'époque, c'était un petit peu vendu comme ça, puisque c'était le premier film de mémoire où il y avait Les deux têtes d'affiche étaient Robert Redford et Brad Pitt.
Et Brad Pitt, ouais.
Et le
ouais,
film.
D'ailleurs, tu as raison, parce qu'à l'époque, on parlait du fait que Brad Pitt, c'était le.
Bah, c'était
le Redford.
Le nouveau beau gosse ultime, sauf qu'il a, il a quand même beaucoup moins de cordes à son arc.
Oui, et puis, puis pour moi, il a fait. Enfin, c'est un très bon acteur, hein, Brad Pitt, il n'y a pas de problème. Il a, fait de, il a été très bien servi par ses rôles et il a su. Enfin, c'est un bon acteur, il n'y a pas de doute, mais il n'a pas le. Il n'a pas l'ampleur. Voilà. Faire attention quand on nomme un acteur d'être le prochain cela, il faut être prudent. Et oui. Pour moi, Brad Pitt n'est pas le prochain Robert Redford. Pas encore. Il a, comme tu dis, il n'a pas assez de cordes à son arc. Les engagements de Brad Pitt ne sont pas tout à fait les mêmes.
Non.
Voilà.
Non, sa discrétion non plus.
C'est ça. Un acteur, par exemple, que je trouve. C'est beaucoup dire, mais Leonardo DiCaprio est beaucoup plus discret et me fait beaucoup plus penser. Alors, peut-être les engagements de DiCaprio, je ne les connais pas bien, donc je ne vais pas en parler, mais en tout cas, dans le. Avec assez discret.
Il est écolo, DiCaprio, il met du biocarburant dans son yacht.
ouais.
Mais après. Mais même les deux, ils ont quand même ils ont de bons parcours. Ils ont su choisir les films qu'ils ont fait, en fait. Et DiCaprio, il a su rebondir après Titanic, ce qui était quand même pas évident. Donc,
Oui, et il a. Et contrairement, par exemple, à Brad Pitt à l'écran, on sent qu'il a toujours besoin de. Il y a quelques films où il a su se parodier un petit peu, mais DiCaprio, il a quand même joué dans The Loup Wall Street. Et vous, quand je l'ai vu dans le rôle, ce mec-là n'a plus rien à prouver à personne. Il n'en a rien à foutre, quoi.
Non,
il se retrouve avec une bougie dans le cul et il s'en cogne.
C'est vrai.
Bon, Brad Pitt se prend une balle dans la tête avec un sourire de con, mais... Non, Burn a fleuré les...
Et puis une coupe de cheveux...
Oui, ne parlons pas de la coupe de cheveux qui est peut-être un cauchemar pour tous les coiffeurs... C'est la terre-porte, mais en tout cas, voilà. Ouais, moi, je rapproche pas Brad Pitt de... Bon, peut-être l'avenir nous démontrera le contraire, mais... Voilà. Moi, Robert Redford est un... Voilà, je te le disais tout à l'heure, est quelqu'un qui faisait tellement partie, en fait, du paysage cinématographique, j'avais même envie de dire du patrimoine cinématographique, que c'en était un mec... un déboulonnable, quoi. Enfin, quand on m'a dit Robert Redford est mort, je me suis dit, putain, mais en fait, oui, il peut mourir, ce mec, en fait.
Oui. Oui. Alors qu'une Clint Eastwood, qui a preuve du contraire, non.
Voilà.
Et bim, demain, dans les journaux.
Ouais, et ben, je vais dire un truc, tu vas avoir des ennuis.
Ah, mince. Ah, bref.
On peut pas citer... c'est compliqué de faire une émission d'une heure sur Robert Redford, avec d'autres professionnels y arrivent très bien, mais... parce qu'il y a tellement à dire.
Oui, et puis moi c'est ce que je dis au début, c'est que ce qu'il y a d'extra, enfin de vraiment bien avec cet acteur, il y en a forcément d'autres comme ça. Justement Meryl Streep, hein, qui partage avec lui l'affiche de Out of Africa, notamment elle a fait un autre film d'ailleurs que j'ai découvert. C'était un film avec d'ailleurs Tom Cruise. C'était Sous Surveillance, je crois. Où elle partage encore l'affiche avec... non, c'est pas ça du tout.
Oui, parce que je cherche.
Elle a fait... Ah, ça doit être ça. Non, c'est pas ça. Elle a fait un film, elle a partagé un film alors avec à l'affiche avec...
Sous Surveillance, c'est Suzanne Sarandon.
Oui. Donc, non, c'est pas ça du tout. C'est pas ça.
En tout cas, elle a travaillé avec lui sur Lion et Agneau.
C'est ça, Lion et Agneau, c'est celui-là que je cherchais. Mmh, voilà, mmh. Et que je n'ai pas vu, mais que je vais essayer de voir. Et donc, c'est un peu comme Meryl Streep, c'est que, globalement, si on prend leur filmographie, tu peux forcément trouver un film dans, on va dire, ton genre de prédilection dans les films que tu aimes bien, qui vont t'amener après à aller voir peut-être d'autres choses avec ces acteurs-là qui seront complètement différents. C'est pas dans des rôles approchants où, comme tu dis, il sait s'effacer dans ses films,
Ce qui fait très bien. Enfin,
il sait ne pas bouffer le film, en fait.
Oui, non, mais en fait, pour moi, c'est cohérent parce que ce mec, rappelons-le, a monté le Sundance Festival, qui est un festival de films indépendants, où il met en lumière d'autres personnes que lui. En fait, c'est pas trop en lumière, finalement, dans ce festival-là. Ouais. Par contre, il en amène d'autres dans la lumière, donc il est capable de le faire aussi quand il est à l'écran. Mais quand on regarde un peu la filmographie de Bradford, avec qui il n'a pas tourné, enfin, avec quel monstre sacré du cinéma il n'a pas tourné, ce mec.
Oui.
C'est fou. C'est le gars qui a tourné à la fois qui est capable de tourner avec Sidney Pollack, qui est capable de faire des westerns, enfin, de jouer dans des westerns, il est capable de jouer avec les Avengers, quand même. Enfin, c'est quand même le grand écart, quoi.
Oui. Oui, après, il peut tout jouer, et puis il devait faire un petit peu comme Clint Eastwood, c'est-à-dire faire des projets bankable pour remplir les caisses et pour pouvoir faire après de libre sur des productions plus personnelles, quoi.
Il a prêté sa voix à un film, moi, que j'ai beaucoup aimé. Je sais pas si ta fille l'a vu, mais si elle l'a pas vu, montre-lui, parce que c'est Le Petit Monde de Charlotte.
Je ne l'ai pas vu.
Charlotte est une petite araignée. Et c'est très chouette. C'est très très chouette. Et il prête sa voix.
D'accord.
Voilà, un film avec une musique de Danny Elfman. Hein, donc, forcément un beau film.
Il a aussi un... Au Futuroscope, il y a... Futuroscope de Poitiers, il y a comment... Il y a une animation, c'est un planétarium. Et le documentaire qui passe régulièrement, alors je sais pas s'il y en a qu'un, mais le dernier que j'avais vu, c'était... tu vas savoir pourquoi c'est la dernière fois que je suis allé. Dans le générique, tu vois que c'est Robert Redford qui prête sa voix au documentaire en VO. Malheureusement, il est diffusé en VF. Et c'est Laurent Dutch.
Ah merde.
La marche est haute quand même.
Oui.
Mais bon, voilà.
Laurent Dutch, donc, a doublé Robert Redford.
Oui, sans l'image, ça pouvait le faire, ouais. Ben voilà.
Je regardais un film que j'avais bien aimé aussi, mais on ne va pas en parler, parce que pour moi, c'est pas le meilleur film, mais c'est un film très sympathique, c'était Les Experts. Et je me disais, mais il avait joué avec Dan Aykroyd, et effectivement, c'est dans Les Experts qu'il
a fait. Oui. Ouais.
Ben Kingsley aussi, enfin voilà, Sidney Poitier, enfin, il a joué avec les plus grands, quoi. James Earl Jones, voilà. Il a partagé l'affiche avec Steve Buscemi aussi dans Le Petit Monde de Charlotte, dont je te parlais tout à l'heure. Voilà. On a perdu un grand acteur, un très bon réalisateur.
Oui.
Et puis un mec qui, je pense, qui est capable de brasser des millions, effectivement, puisque sa notoriété lui a permis de le faire, mais. Qui, je pense, avait un côté très humaniste. En tout cas, il s'est servi de sa notoriété pour ça.
C'est l'anti-Trump, quoi. Et en même temps, ce que j'entendais, c'était sur France Inter, qu'ils avaient le lendemain ou le surlendemain de son décès, ils avaient fait une émission. Et c'était le téléphone sonne. Et une personne comparait Clint Eastwood et Robert Redford en les opposant de façon. Les animateurs n'étaient pas d'accord. Moi, ce qu'il disait, c'était pas pour moi, c'était pas forcément. Moi, j'étais plutôt d'accord avec lui, mais c'était assez tranché en fait. Et y a un des intervenants qui a dit qu'en fait, les deux, c'est l'Amérique en fait, c'est les États-Unis, l'image qu'on a de l'Amérique, les deux faces de la médaille en fait.
Ouais, alors étonnamment, moi, je sais pas.
Mais l'Amérique d'avant. Voilà, c'est avant le naufrage auquel on est en train d'assister. Quoi.
Oui, ce serait plutôt ça. Ouais. Après, ce qui est rigolo, petite anecdote finale, Robert Redford apparaît dans un film français, malgré lui.
Oui, ah oui.
Oui. On le dit.
Ah bah oui. Ah oui, parce qu'il y a Peter qui est quand même en train de faire du riz dans les vatères.
Voilà, on le doit à Azanavicius, je n'arrive jamais à dire son nom.
Azanavicius, c'est Alain Chabat, ouais.
Merci. Voilà, dans La Casse Américaine, oui. Oui, c'est un film qui est fait avec des morceaux de film, enfin avec des roches, hein, c'est-à-dire des extraits de film.
Oui.
Et effectivement, on va être fort, on joue dedans.
Oui, et d'ailleurs, petite info locale pour les Mayennais, et puis ceux d'un peu plus loin, c'est que, de mémoire, le 16 décembre au au théâtre des Ursulines, le Carré a programmé un spectacle qui s'appelle Blockbuster, où des artistes refont en direct live le bruitage d'un film. Et pour accompagner cette pièce de théâtre, accroche-toi à ton siège, le grand détournement est diffusé au Cinéma Le Palace le vendredi suivant, je crois que c'est le vendredi 18 décembre.
Ah, voilà. C'est bien ça, bravo.
Ça, c'est bien. Voilà. Mais j'espère qu'ils ne vendront pas des burgers.
Ouais.
Parce que c'est sans doute ça qui a donné la chiasse à Peter. Mais oui, c'était un bon film, c'est un très bon film.
Alors, est-ce que, parce que j'ai vu qu'il y avait des doubleurs, en fait, qui faisaient des tournées où ils reprenaient des extraits de films et de séries et ils doublent en direct. C'est pas ça.
Non, c'est pas ça. Je sais, je dirais qu'on
théâtre, hein. Ouais.
On a pris nos billets et puis j'ai réservé ma soirée pour le ciné, donc je te redirai ça après. Et
on en reparle.
On en reparlera en janvier. Voilà.
Voilà.
Donc on arrive au terme de l'émission.
C'est ça, donc on ne présente plus Robert Redford, hein. On en a parlé pendant une petite heure de manière fort sympathique et tendre, hein, parce que moi c'est un acteur pour qui j'ai beaucoup de tendresse, beaucoup de sympathie.
Oui.
Il le sait pas, il m'aurait pas reconnu, mais j'ai de la sympathie pour lui.
C'est important.
C'était pas réciproque a priori, mais bon, c'est pas grave.
Non, mais il en aurait eu.
Peut-être. Écoute, peut-être. Peut-être que s'il avait fait un festival qui soutenait des émissions de radio, on aurait pu bénéficier de son aura.
Oui, et puis on n'est pas des nazis, donc de toute façon.
Et on n'est pas des nazis, donc, mais exactement.
Voilà. D'ailleurs, les nazis, c'est les méchants. Gens, donc.
Ouais. Les nazis sont des méchants. Ouais. Ne n'oublions pas ce détail.
Donc voilà, nous arrivons au terme de l'émission. Le mois prochain, ce sera un autre sujet. On verra d'ici là.
À moins qu'un autre décide de rejoindre Robert Redford au Panthéon des.
Bah, logiquement, d'après ce que je viens de dire, Clint Eastwood demain.
Ouais. Écoute, tu croises les doigts pour pas que ça arrive, parce que sinon, tu te prends un appel direct demain matin.
Non, mais bon. Il a 94 ans, mais bon, ça me fera un peu chier quand même.
Je te rappelle que tous les voyants et autres diseurs de Bonne Aventure sont au chômage depuis qu'il y a ChatGPT. Hein.
Bah en tout cas, oui, c'est pas faux. Mais en tout cas, si ça arrive, je te promets que direct, je prononce d'autres noms.
j'ai une liste.
J'ai toute une liste.
Ouais. Des listes de. Bah, on dit que c'est des méchants, mais quand même, les nazis, quoi.
Bah, des nazis, ouais. Enfin voilà. Bon, bah bonne soirée à toi, bonne soirée à vous.
Eh bien, un grand merci. Merci pour ce petit échange sympathique.
Oui. Et puis, on se retrouve le mois prochain. À suivre, il y a encore mon émission dans une heure qui s'appelle Quand la musique est bof. Ce soir, c'est la bande originale de Ocean's Eleven.
Ils ont gardé cette programmation-là. Ils n'ont toujours pas déprogrammé.
Non. Et bah, en fait, c'est ça ou rien. Donc.
Ah ouais, ouais. Il y avait un créneau de libre, quoi.
Ouais, en gros, ça permet
c'est
de caler.
C'est un peu comme nous, hein, le deuxième jeudi de chaque mois, je crois qu'à 19h, il n'y avait rien. Non plus.
C'est ça. Et quand la musique est bof, Joël, il m'a dit c'est l'équivalent d'un bouquin qui cale un meuble, en gros.
Ah ouais, mais il n'a pas tort. Hein. Ouais. Ouais, le tout, c'est que ça ne tombe pas des mains.
Bon, allez, bah, bonne soirée à vous.
Merci beaucoup. Et puis,
portez-vous bien et que la force soit avec vous. Allez.
Complètement. Et attention aux nazis.
Attention aux nazis. Allez, salut.
Ciao.